Ovior.
Fjord.
Ovior.
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 Ovior. Ovior.
Qu'est-ce que c'est ? Une série de podcasts proposée par Les Pages Vior. Dans cette série, nous vous parlerons du cycle de l'eau en nous appuyant sur un territoire bien particulier, celui du bassin versant du Vior. Le Vior est une rivière de 163 km qui circule en Aveyron, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne.
Pour ce troisième épisode, nous découvrirons les ripisylves en compagnie de Pierre-Jean Ichard. Il est chargé de mission à l'Épage Vior.
Vous allez bien, ouais ?
Ça va,
ouais. Ah, c'est beau temps.
Il est souvent sur le terrain avec des agriculteurs. Vous l'entendez d'ailleurs derrière moi avec Simon. Le but de ces visites est de réfléchir avec eux sur les végétations qui bordent le Vior et ses affluents, et plus généralement sur le fonctionnement de la rivière.
Et une source captée, je vois là.
Et ouais.
Avec un point, un bac d'abreuvement.
Ouais. Non, ça c'est pas moi, juste en dessus. Après là, on a un petit carré.
Ouais, il y a de la pente aussi là.
Ouais, là pourquoi on se penche.
La vie d'un cours d'eau, la formation des vallées, se fait sur des millénaires. Et un humain vit 100 ans maximum. Donc nous, on est vraiment que de passage. On essaye d'améliorer les choses, mais en fait, pour voir l'évolution d'un cours d'eau, c'est pas évident à l'échelle de la vie d'un homme en fait.
Là, vous avez une grande longueur, le long du ruisseau.
Ouais. Eh bien, ouais, ça attaque là, en bas, là.
D'accord. On peut y descendre là, et après on fait...
On par là. Ouais.
Et après, on remontera par là.
Ouais, n'importe.
Allez. Oui, là, il a tendance à se décaler, en fait. Hein.
Et ouais, ça. Il fait des...
Ah oui, il fait des méandres, là, oui. Le fait d'avoir un cours d'eau avec des méandres, méandriforme, on appelle ça, c'est signe que... L'homme, et notamment monsieur, n'a pas cherché à le contrôler tout le temps. Il y a plein d'endroits où on constate qu'il y a des petits cours d'eau de ce gabarit-là qui sont tout droits, qui ont été rectifiés, qui ont été remis tout droit. Et là, c'est beaucoup plus problématique pour lutter contre les inondations, casser les vitesses, tout ça. Quand c'est tout droit, c'est comme un canal et c'est pas bon. Hein. Et d'un point de vue biologique aussi, biodiversité, eh bien, dans quelque chose qui est tout droit, vous aurez beaucoup moins de diversité d'habitat et de cache pour la faune aquatique ou la faune qui vit autour du cours d'eau. Donc c'est intéressant d'avoir un cours d'eau comme on l'a là, avec des méandres, des alternances d'eau rapide, d'eau un peu plus calme. On appelle ça des faciès, d'écoulement. C'est quand même relativement préservé, on va dire.
C'est des méandres. C'est une évolution latérale du cours d'eau, donc c'est naturel.
Le cours d'eau, il a tendance à bouger latéralement ou verticalement. Souvent, les cours d'eau sont contrôlés par l'homme latéralement. On met des enrochements, du béton, des choses comme ça, ou de la végétation par moment, ce qui est plus respectueux quand même. Et du coup, le fait de fixer les berges, on stoppe cette évolution latérale. Et du coup, on favorise une évolution verticale, donc la formation des vallées, plus ou moins.
Pour l'homme, et l'agriculteur en particulier, le rôle premier d'une plantation de ripisylves dans nos régions est de stabiliser les berges. Il faut trouver des compromis entre les besoins de l'agriculteur et l'évolution naturelle d'un cours d'eau.
Je m'attendais à trouver beaucoup moins d'arbres chez vous. Et en fait, c'est pas si mal quand même. Il y a des gros sujets, on voit, il y a de beaux chênes, hein, très très jolis. Il y a de l'aulne, il y a du... Il y a du sol, j'ai vu des aubépines aussi, c'est quand même bien, il y a des petits frênes. Hein. C'est varié et en espèces et en âge. Hein. Il y a des végétaux plus jeunes, il y a du houx, il y a du noisetier.
Nous, ce qu'on plante beaucoup et ce qu'on préconise, c'est les sols ou les aulnes, qui ont des systèmes racinaires qui sont vraiment bien adaptés pour la tenue des berges. Alors les sols, il y a plusieurs espèces. Les aulnes, c'est principalement l'aulne glutineux qu'on retrouve sur la vallée du Vior, bien qu'il y ait deux, trois autres espèces. L'aulne, on appelle ça le vergne en occitan. Donc il y a beaucoup de gens qui s'appellent vergne dans le pays, là, et bien ça vient de cet arbre-là. Ensuite, donc, on préconise plutôt des végétaux, des arbustes, des buissons. Pour qu'une ripisylve soit équilibrée, il faut qu'il y ait un peu toutes les strates. Donc des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes. Pareil pour les classes d'âge. Pour qu'il y ait une ripisylve qui soit bien implantée dans le temps, il faut des jeunes végétaux, des végétaux d'âge moyen et des vieux végétaux. Comme ça, quand les vieux meurent, ben, il y a les moyens qui prennent leur place. Il y a un roulement qui se fait comme ça. Donc ça, c'est important. Les classes d'âge et les espèces, la diversité d'espèces, fait que la ripisylve va durer dans le temps et va être plus fonctionnelle, en fait. Et plus riche aussi d'un point de vue biologique.
Une ripisylve est un espace de transition boisé entre cours d'eau et milieu terrestre. D'ailleurs, en latin, ripa signifie rive et sylva, forêt.
Donc cette végétation du bord de cours d'eau permet de faire des liaisons entre les espaces boisés. Donc ça permet, par exemple, aux espèces comme les chevreuils, les renards, de suivre ces bandes boisées-là, plutôt que de traverser en pleine prairie. Ça permet aussi donc, de contrôler la température. Là, clairement, la végétation en bord de berge, la ripisylve, donc, a une incidence sur la température de nos cours d'eau. Et du coup, la température, si elle est trop élevée l'été, si elle passe les 20 degrés, bien les truitelles qui sont nées au printemps risquent de mourir à cause de cette température qui s'élève. Donc le fait de garder un couvert sur le cours d'eau, de recréer un couvert sur le cours d'eau, bien on peut préserver une température assez fraîche sur ces petits cours d'eau, parce qu'en fait, c'est des parties de cours d'eau près des zones de source sur lesquelles on essaie de végétaliser. Et donc, sur ces cours d'eau-là, tout petits, s'il commence à y avoir des problèmes, eh bien, plus bas, dans les gros cours d'eau, on retrouve ces problèmes qui sont parfois amplifiés. Donc, on essaye de résoudre les problématiques près des zones de source, on appelle ça les zones apicales, avant que ça crée de grandes rivières ou des fleuves.
Les pêcheurs le savent bien et affectionnent les zones où la végétation des bords de berge est abondante. Nous avons rencontré Elian qui nous en parle.
Partout où on pêche, ce sont des gorges quoi, très lointaines, des premiers chemins et des premières routes, et qui sont très abritées de, en plein été, quand l'autre jour il faisait 32 degrés, là-bas en bas, nous on était au frais et puis dans l'eau, et peut-être il faisait 25, quoi, voilà. Et l'eau était à 14 degrés, quoi, voilà, donc c'est autre chose. Quoi.
Reprenons. Parmi les fonctions écologiques des ripisylves, il y a le contrôle de la température et les corridors pour les animaux. Et il y a encore d'autres fonctions dont Pierre-Jean Richard va nous parler.
Ça permet de créer de la matière organique qui peut être utile pour tout ce qui est insectes aquatiques ou insectes qui vivent aussi dans cette bande végétale. Ça permet aussi de diversifier les habitats, aussi bien pour les espèces aquatiques comme pour les écrevisses, par exemple, qui vont apprécier des systèmes racinaires d'aulnes, ou des arbres morts qui vont être utiles pour les piques et pêches, par exemple, ou des branchages qui vont surplomber le cours d'eau qui vont être utiles pour le martin pêcheur, des choses comme ça.
On continue ?
On continue avec les fonctions mécaniques de ces ripisylves. Nous avons vu qu'elles permettaient de stabiliser les berges. Mais elles servent aussi à dissiper l'énergie en période de crue, à réaliser un effet brise-vent et à piéger les sédiments.
Il y a des fonctions mécaniques qui permettent de fixer la terre. Et en fait, cette terre qui ne descend pas dans le cours d'eau va être bénéfique. En fait, parce que si on retrouve des éléments trop fins en trop grand nombre au fond du cours d'eau, on assiste à une homogénéisation du substrat, donc du fond du cours d'eau. Et à la place d'avoir des cailloux, des pierres, des graviers et un peu d'éléments fins, on n'a plus que des éléments fins qui ont tendance à colmater tout l'habitat disponible pour les insectes, les invertébrés aquatiques. Donc on se retrouve, au lieu d'avoir 10 ou 15 espèces, par exemple, d'insectes aquatiques, eh bien on n'en a plus que 2 ou 3 qui sont beaucoup moins exigeantes. Et ces insectes ont un rôle dans l'auto-épuration du cours d'eau. Ils vont s'alimenter de nutriments qui transitent dans l'eau. Et donc ça va permettre d'auto-épurer aussi le cours d'eau, ces insectes-là. Ensuite, il y a un effet brise-vent, puisque tant qu'on était à parler des fonctions mécaniques, donc au même titre qu'une haie, une ripisylve en bord de berge, ça va permettre aux troupeaux qui sont en pâture de se protéger du vent ou du mauvais temps, par exemple. Ça va permettre aussi, en période de crue, de créer de la rugosité dans le limineur, là où l'eau va circuler. Et cette rugosité, en fait, va permettre au cours d'eau de déborder. Et donc ça va permettre de dissiper l'énergie et de lutter contre les inondations dans les villages plus bas. Et typiquement, on préfère que les cours d'eau, les petits cours d'eau, débordent dans les prairies en amont que dans les villages plus bas. Donc ça va permettre de contrebalancer les effets d'imperméabilisation des sols et également les effets du drainage qu'on peut connaître sur le bassin versant du Vieux.
Donc là, les vaches traversent, boivent et vous passez là avec les tracteurs. Ouais, c'est bon, voilà. Okay. On a bien fait de prendre les bottes. Hein. Là, ça descend loin encore.
Non, là, on est bientôt au bout.
Ensuite, il y a une fonction socio-économique aussi. Les végétaux qu'on coupe, parfois, peuvent repousser, notamment l'aulne ou le sol. Et donc, ces produits issus des coupes peuvent être recyclés, depuis peu, il y en a qui les utilisent, dans des bâtiments agricoles pour faire des litières. Donc, en plus de la paille, ils peuvent mélanger des copeaux. Ça permet de valoriser aussi cette ressource qu'il y a au bord des cours d'eau, qui était jusqu'à présent, souvent, ce n'était pas des bois nobles, donc on ne savait pas trop quoi en faire. On le mettait dans un roncier ou on le brûlait.
Et j'ajouterai à cette fonction socio-économique le plaisir du regard et de la balade le long de ces cours d'eau ombragés. Christophe se souvient quand il accompagnait son père à la pêche.
Je me souviens de ces rives densément boisées. Moi, ce que j'admire toujours, c'est la densité de vie qu'il y a dans un mètre carré de surface terrestre et surtout dans ces milieux de bord de l'eau. Là. La vie est grouille, elle est intense, elle est extraordinaire. Entre le monde des insectes, le monde végétal, le monde minéral, vous avez des passerelles sans cesse et des passeurs, quoi. Que ce soit les insectes, que ce soit le vent qui fait bouger les plantes. Ces lieux sont un spectacle renouvelé permanent.
Retrouvons Pierre-Jean Richard qui nous explique comment notre regard a changé en quelques années et comment son travail en a été modifié.
Il y a des zones de gorges boisées sur la vallée du Vior, sur le bassin versant du Vior, où avant on intervenait régulièrement. Tous les 5 ans, il fallait qu'on y aille pour couper des arbres, qu'il n'y ait pas des embâcles, c'est des bouchons de bois qui se forment dans le cours d'eau. Et les gens avaient peur qu'en cas de rupture, ça fasse des vagues qui submergent, comme on peut voir dans les films américains, des villages entiers. Oui, enfin, c'était un peu exagéré de penser des choses comme ça. Ces secteurs-là qui sont identifiés en gorges boisées, eh bien, on n'intervient plus. On laisse faire la nature. Alors qu'avant, on cherchait à contrôler. Dans les années 2000, on allait partout. Quand je suis rentré au syndicat en 2003, on était clairement des bûcherons des cours d'eau. Hein. On coupait les arbres morts, penchés ou dépérissants. Il fallait que l'eau parte le plus vite possible. Donc on gérait nos cours d'eau comme des canons un peu. Et en fait, à partir de, entre 2005 et 2010, là, on s'est mis à travailler beaucoup avec la Fédération de pêche de l'Aveyron. Et eux, ils ont une équipe scientifique assez au point, on va dire. Et ils se sont mis à nous sensibiliser à toutes ces choses-là. Et donc maintenant, on ne coupe plus rien à l'intérieur de la voûte au-dessus du cours d'eau. Si on doit couper des choses, c'est plutôt à l'extérieur côté prairie pour pouvoir mettre en place des clôtures et aussi assurer une durée de vie de nos aménagements. Parce que s'il y a une branche qui tombe et qui casse les clôtures l'année d'après, bien, c'est de l'argent public qu'on investit sur des parcelles privées. Donc l'objectif, c'est de maintenir ces aménagements pendant une durée maximale quand même.
Là, en fait, on voit très bien qu'il y a une grosse encoche d'érosion. Ouais, voilà. À force, ce qui risque de se passer, c'est que ce gros aulne, là, avec son système racinaire, eh bien, il risque de se faire contourner. Et s'il se fait contourner, donc le ruisseau il va passer là sur la droite. Ensuite, il va déposer là-bas. Et en fait, votre voisin d'en face, il va gagner du terrain et vous allez en perdre. Ouais. Peut-être que si on vient à le clôturer un jour, il faudra prévoir de le végétaliser en même temps pour stabiliser cette zone. En fait.
Ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que quand il n'y a pas de végétaux, il y a des zones d'érosion qui se créent, donc des endroits où la terre se fait emporter sur les bords des cours d'eau. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le cours d'eau, il a tendance, donc, comme je vous disais tout à l'heure, à évoluer latéralement. Et quand il ronge d'un côté, il a tendance à déposer de l'autre. Donc l'exploitant qui n'a pas de végétation en berge et qui risque de perdre plus gros en laissant faire les choses sans planter ou sans mettre de clôture, que s'il nous laisse intervenir. Donc on essaye de leur faire passer ce message-là. La perte de terrain est plus ou moins bien acceptée. Souvent, la discussion, c'est oui, à combien de distance allez-vous implanter la clôture du cours d'eau? Nous, on leur explique qu'il y a une distance minimale, c'est minimum 1 mètre, sinon on ne refait pas. Parce que avec 1 mètre, on se dit qu'il y a suffisamment d'espace pour que la régénération naturelle colonise.
Il y a encore des fonctions des ripisylves dont nous n'avons pas parlé. Les champignons et bactéries associées aux racines constituent une pompe épuratrice pour certains polluants, comme l'azote, le phosphore et les pesticides. Par ailleurs, les racines piègent des particules issues de l'érosion.
Quand on clôture, on ne replante pas systématiquement. Des fois, on laisse faire la nature. Mais un jeune aulne, s'il doit pousser là, il va sortir naturellement à cet endroit-là. Il a peut-être plus de chances d'arriver à l'âge adulte qu'un qu'on aura ramené d'une pépinière. Bien que la pépinière avec qui on travaille, ils ont quand même le label végétal local. Donc, c'est des végétaux adaptés. Ils vont récolter des graines. Enfin, normalement, il n'y a pas de problème. On n'a pas beaucoup de pertes sur les plantations qu'on fait.
On va voir si ça vous intéresserait qu'on reclôture tout le long et qu'on stabilise les zones, ou comment vous voudriez qu'on fasse ça?
Ouais, moi ça m'intéresserait.
Ok. Il faudra 2 hauteurs de fil barbelé. On revégétalisera après. Par contre, on prélèvera chez vous sûrement les sols, végétaux. Ouais.
On en profite pour apprendre à réaliser des boutures.
Donc les boutures, oui, on en plante beaucoup. C'est des boutures de sol. Il vous suffit de trouver un sol, d'aller prélever des boutures, donc des bâtons. Il ne faut pas se tromper de sens. Donc la partie qui va vers la terre, bien dans la terre, et voilà. Et donc l'idéal, c'est de les mettre un peu en jauge. Vous les mettez dans de l'eau, là, avec un peu de sable et de fumier. Vous les laissez quelque chose comme 15 jours ou un mois. Ensuite, vous allez les planter en terre, en faisant des fois un avant-trou avec une baramine ou une tige en fer. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'en mettre assez, une assez grosse densité, parce que les taux de reprise, parfois, peuvent être pas très bons, surtout s'il y a de l'ombre, en fait. Donc, c'est important d'avoir de la lumière.
Après, on voit que, quand même, il y a des ronces, vous ne les taillez pas, vous ne les traitez pas. Enfin, on voit que ça s'est bien préservé chez vous. Mais par contre, il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres, et les endroits où il n'y a pas d'arbres, ben, le ruisseau a tendance à se déplacer latéralement. Et pour vous, pour que vous puissiez continuer à exploiter votre parcelle de manière acceptable, on va dire, eh bien, ce serait pas mal d'essayer de végétaliser ces zones-là, de les stabiliser en fait.
En parlant de ronces et de jeunes arbres, rappelons que les forestiers disent que la ronce est le berceau du chêne ou que la ronce est la mère du hêtre.
La ronce, c'est une végétation pionnière qui s'installe quand il y a une mise en lumière et qu'on n'essaye pas de la contrôler. Donc c'est quelque chose qui va pousser tout seul. Et en fait, la ronce va être utile aux jeunes arbres qui vont sortir naturellement parce qu'elle va décompacter les sols. Et également, elle va les protéger des chevreuils qui vont venir frotter leur bois sur des jeunes arbres et donc les écorcer et écourter leur durée de vie, quoi. J'essaye de me battre pour expliquer aux exploitants que essayer de lutter contre la ronce, ben, c'est peine perdue, puisqu'ils n'ont plus le droit d'utiliser de produits chimiques aujourd'hui à mort de cours d'eau. On peut la traiter de manière mécanique. Cependant, bien, ils vont s'y épuiser, elle repoussera tout le temps. Donc ils vont utiliser du carburant, de l'énergie pour rien, du temps. Le mieux, c'est de laisser la végétation se développer, je leur dis souvent. Et après, à moyen long terme, alors nous, peut-être qu'on ne le verra pas, mais nos enfants, peut-être, oui. Une fois qu'il y a suffisamment d'ombre sur le cours d'eau, bien, la ronce pousse au moins. Quand on va dans une forêt très ombragée, une futaie, eh bien, il n'y a pas nécessairement de grosse densité de ronces au sol. Mais ça, c'est pas facile à accepter et ça se fait pas d'un claquement de doigts, en fait. C'est pas rapide comme action.
Quand Pierre-Jean est sur le terrain avec un agriculteur qui a des terres en amont du Vior, il en profite pour lui rappeler la solidarité nécessaire avec ceux situés en aval.
On porte les vaches un peu là. Pour l'instant, non, on les a pas sorties encore. D'ici un mois et demi, on va pouvoir les ressortir. Okay.
Et aussi, on essaie de limiter l'accès du bétail au cours d'eau. Parce qu'en fait, quand vous avez un troupeau qui accède à un petit cours d'eau et qui fait ses besoins l'été sur des petits volumes d'eau, eh bien, il y a une dégradation de la qualité de l'eau. Et en fait, l'eau, c'est un bien commun. Donc, on n'a pas le droit, normalement, de souiller cette ressource. Et donc, on leur explique bien qu'il y a des exploitants en dessous de leur parcelle, en aval, et qu'il y a une notion de solidarité à avoir entre ceux qui sont près des zones de source et ceux qui sont en dessous. Ça, il y en a qui l'entendent. On essaye de rentrer par plusieurs portes, parce que tous n'ont pas la fibre protection des cours d'eau et du biotope et de l'environnement, quoi.
Quelques mois plus tard, nous avons accompagné Pierre-Jean Richard, non plus sur un diagnostic, mais sur une réalisation. Toute l'équipe chantier est là, avec tracteur, enfonce-piquette, pelleteuse, tronçonneuse, et même la pluie est de la partie. Donc on est où, Pierre-Jean ?
Ici, on est sur le ruisseau de Pantel. Le ruisseau de Pantel se jette dans le Gifou, qui ensuite va dans le Séor pour rejoindre le Vior. L'exploitant nous sollicite parce qu'il a une partie du ruisseau qui est busée, donc qui est sous terre, et ces buses sont en train de céder les unes après les autres, donc elles sont usées.
Et du coup, on a bouché, cassé cette buse et on l'a refait passer à ciel ouvert. Donc il a fallu dans un premier temps creuser pour avoir une forme au plus près du naturel. Ensuite on a mis en place ce géotextile pour fixer la terre, pour pas qu'on se retrouve avec trop de terre en trop grande quantité dans le fond du cours d'eau. Et ensuite on a ramené des matériaux, donc ici du 0-100, pour imiter, reconstituer un matelas au fond du ruisseau. Donc c'est ce qu'on voit, les cailloux là, pour que ce soit pas nu, qui est pas rien en fait. Et ensuite, donc les plantations ont été faites, et là l'étape pour terminer, ça sera les clôtures, pour protéger les plantations. Parce qu'ici, quand l'agriculteur il va amener les vaches, si on met rien, nos plantations elles vont pas durer longtemps en fait.
Qu'il y a un tracteur qui veut passer. Nous nous rapprochons de l'équipe chantier. Ils sont 5 en plein travail. Morgane accepte de nous dire quelques mots avant que la pluie mette fin à notre discussion.
Dans la nature, on a un travail qui sert à quelque chose, quoi. On sait que sur le final, ça va servir, quoi. On va pas faire quelque chose pour rien faire.
Alors, on a une équipe qui est toute l'année sur le terrain, hein. Même s'il fait pas beau, eh bien, ils sont quand même dehors. Donc 5 personnes qui font environ 20-25 km de clôture par an. Donc ça vise à restaurer 20-25 km de ripisylve en berge chaque année. En parallèle aux travaux de clôture, de mise en défense que proposent les pages, on propose aussi des aménagements de points d'abreuvement. Donc nous, à les pages, on essaye de privilégier ces systèmes d'abreuvement à l'extérieur du cours d'eau pour avoir le moins d'incidence possible sur le fonctionnement.
Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne nous coupent pas les arbres.
Là, ils sont en train de couper quelques branches de sol pour dégager la passerelle, faire la clôture aussi, parce qu'en fait, le sol, il est cassant. Et donc, s'il fait de la neige sur ces sols-là, c'est assez cassant comme fibre. Donc, ça peut abîmer nos clôtures. Donc, en fait, on ne touche pas normalement à ce qui se passe, la voûte qui est au-dessus du cours d'eau, les quelques petits arbres qu'il y a ici. Par contre, tout ce qui est à l'extérieur, qui va venir vers la prairie, là, pour poser notre clôture, on fait un élagage préalable quand il y a de la végétation. Les branches qui sont coupées, eh bien, ils vont pouvoir les recycler et replanter des boutures en amont pour faire des petits clones et refaire d'autres sols. Donc, c'est ce qu'ils ont fait plus bas déjà sur les géotextiles. Par moment, on va voir quelques branches. C'est des branches qui sont issues d'un élagage qui a été fait un peu plus bas là. Pour le moment, on a pu faire ça, c'est bien. Ça fait partie de chantier pilote, elle a remis le cours d'eau à ciel ouvert comme ça. Il y a plus d'agriculteurs qui remplacent les bus et qui les remettent sous terre que d'agriculteurs qui acceptent de remettre les cours d'eau à ciel ouvert.
Comment on arrive à convaincre que c'est plus sympa de...
Après, nous, clairement, s'ils veulent remettre des bus à l'épage, on ne les assiste pas.
Donc, c'est ça, donc ça leur coûte de l'argent.
Tout à fait. Alors que si on remet un cours d'eau à ciel ouvert, c'est un service auquel ils ont droit et on va chercher les financements. Donc pour l'exploitant, en fait, ça lui coûte zéro quoi, s'il remet le cours d'eau à ciel ouvert. Donc c'est des chantiers, on en fait 2-3 par an, ça reste anecdotique, mais peut-être que dans 10 ans, comme les clôtures en 2013, où on faisait un de chantier par an, peut-être que dans 10 ans, on ne fera que de ça. Ça va dans le bon sens, puisque le cours d'eau était sous terre, il n'y avait pas de vie dedans. Aujourd'hui, on le remet à ciel ouvert, il y a des arbres qui vont pousser, des oiseaux qui vont passer, des insectes qui vont se développer. Donc ça va dans le bon sens. Voilà, donc c'est des chantiers qui sont plus lourds que des simples chantiers de clôture comme on peut avoir en amont, mais par contre, qui améliorent grandement la situation.
Dans votre prochaine balade au bord d'un cours d'eau, prenez le temps de vous arrêter et de regarder la vie dans les ripisylves. Comparez la température de l'eau. Regardez comment la rivière évolue avec ou sans végétation en bord de berge. C'était Au Vior, épisode 3, la végétation des bords de berge, les ripisylves.
Elle est chouette, elle est bien calée là, elle est haute, elle est... Ouais, c'est bien. Ouais. La terre, vous l'avez trouvée où pour faire les rampes?
Elle est d'ici là.
D'accord.
Une série proposée par l'Épage Vior. Production, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site d'Épage Vior et les plateformes d'écoute de podcast. Si vous venez par ici, prévoyez une randonnée sur les bords du Vior. Vous y retrouverez le long du chemin des panneaux explicatifs.